Brume 90.7, nouvel entretien Confluence, consacré comme chaque mercredi au cinéma, avec messieurs Raphaël Lorenzo et Hakim Vdaouch. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir à vous auditeurs de Brume, bonsoir à toi Amaury.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au programme aujourd'hui? Pas mal de choses.
Et ça s'est varié.
Oui, on a la déchéance et la descente aux enfers d'un metteur en scène japonais que les critiques nationales mettent au nu, enfin du moins idolâtre. Et on a un Claude Lelouch national qui est au fil des ans relégué dans les méandres du cinéma français et qui, avec son dernier film, nous a beaucoup épatés.
Comme quoi, ceux qui ont la carte ne sont pas forcément au rendez-vous. Hein.
Et alors, il y a aussi, du côté de Raphaël, un petit retour sur le dernier film d'Alain René.
Oui, je vous l'avais promis aux auditeurs et je crois que c'est incontournable que de revenir sur la dernière œuvre de feu Alain René.
Qui a été aussi salué par la critique. Qui
nous semble... et à juste titre.
Oui, mais vous pensez vraiment qu'ils auraient dit du mal de donner le film d'Alain René?
Non, mais avant le décès, hein, moi j'avais entendu qu'à Berlin, oui, justement, ouais. C'était un petit peu une sorte de jeune réalisateur de 90 ans qui était récompensé.
C'est exactement ça, Ours d'argent à Berlin.
Alors avant d'attaquer sur les films, juste pour finir dans les annonces, la dernière partie sera consacrée au cinéaste Alexander Payne. On reviendra un petit peu sur ses œuvres, sur ses films et sur sa vie.
Et sur Nebrechka, parce que si on parle d'Alexander Payne, c'est parce que Nebrechka sort enfin, alors qu'il était en compétition à Cannes l'année dernière, donc il a mis, comme à l'instar de Maud l'année dernière, quasiment presque un an pour sortir.
Ok, alors qui c'est qui attaque, messieurs?
Je commence, oui.
Oui, vas-y,
allez, Raphaël,
comme d'habitude,
avec René, justement.
Oui, le dernier film d'Alain René, l'ultime film d'Alain René, Aimer, boire, chanter, hein, ça sonne déjà comme un testament, hein, cette phrase, hein, brave vif, quoi. Et il nous retrace cette fois-ci encore un sujet assez théâtral, hein, c'est l'histoire d'une troupe. Avec trois couples, donc il y a le couple Michel Villarmoz, Catherine Silol, le couple Sandrine Kimberlin, André Dussolier et le couple Hippolyte Girardot, Sabine Azéma, qui répètent une pièce, un vaudeville en fait, dans la campagne anglaise, donc des petits bourgeois de province, on pourrait dire. Et l'un de leurs amis, qu'on ne verra jamais à l'écran, un certain Georges, hein, qui sera absent du début à la fin, hein, on apprend que ce Georges va avoir un cancer, hein, il va bientôt mourir, il a à peu près 6 mois de vie, on lui donne 6 mois pour vivre, et pour un peu le guérir, pour l'aider à aller mieux, on va le proposer en fait dans la pièce pour jouer, et petit à petit, c'est vraiment le pur vaudeville, Georges va séduire toutes les femmes les unes après les autres. On va savoir en fait que Georges a eu une aventure avec une telle quand il était jeune, qu'il était marié avec Kimberlin, etc., etc. Donc pour le coup, René, pour sa dernière réalisation, un petit peu comme le dernier film qu'on avait chroniqué de René, qui était « Vous n'avez encore rien vu », revient à un sujet vraiment très théâtral. Dès le début du film, ça commence, on voit Sabine Azéma qui sort d'un rideau, et les maisons comme ça sont constituées de décors peints, et c'est très à plat, il n'y a pas d'horizon comme ça, et c'est toujours filmé de manière frontale. Pardon. Le film n'aura jamais de champ contre champ, hein, donc déjà pour le coup, au point de vue esthétique, c'est déjà assez radical, assez assumé de la part d'Alain René, et comme si ça ne suffisait pas, René qui est un assez blagueur, un homme très très jeune de 91 ans, comme tu l'as très bien dit, Amaury, il va mixer comme ça dans le film vraiment tous les arts. Donc on retrouve un petit peu la sitcom, hein, c'est un peu divisé en plein de chapitres. Hein.
Puis on peut rappeler quand même, pour faire une petite parenthèse, oui, que le théâtre c'est aussi vraiment important pour lui, et l'esprit troupe, oui, on en avait parlé il y a quelques semaines quand on avait fait une partie sur lui, mais c'est vrai que ça l'a toujours beaucoup passionné, donc c'est aussi pas un hasard qu'il finisse sur ce film-là peut-être. Quoi.
D'autant plus que c'est radical là, par rapport aux autres, où c'était plus ou moins comme sous-entendu, là c'est vraiment frontal, quoi. On est vraiment sur un décor de théâtre du début à la fin, les plantes sont peintes, il y a des petits décors comme ça qui sont assez drôles à voir, assez joli à voir, et on est constamment là-dessus. Et à ça, donc, il mixe à la sitcom, hein, c'est entrecoupé de passages, un petit peu comme le film de Lelouch, qu'on traitera après, hein, de saison, donc elle est 4 saisons, comme le Lelouch. On retrouve aussi son amour pour le cinéma, évidemment, avec des split-screens qu'on trouve à certains moments, et aussi, ce que je adorais, à la bande dessinée. Blutch, le dessinateur qui travaille aux éditions Flûte Glaciale, compose certains décors, hein, quand on arrive dans les différentes maisons, c'est des bandes dessinées, quoi. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial, et mixer tous les médiums, je trouve qu'à la limite, j'en parlais avec Hakim en dehors de l'émission, que c'est presque un geste de punk, moi, je trouve. Un petit peu comme les Wachowski dans Matrix, dans un autre genre, voilà, complètement fou, oser le jeu vidéo et la bande dessinée. Moi, je trouve qu'il fait un peu la même chose, René. Il s'en amuse. Et de tout ça, comme tu l'as très bien dit, il valorise ses acteurs. Tous les acteurs sont, comme d'habitude, magistraux. Hein. Villarmeau, c'est à crever de rire. Dusselier, même s'il est peu présent, arrive vraiment à faire vivre son personnage. Et on a une portrait, comme ça, une galerie de personnages vraiment tous attachants et qui vont très vite évolué avec ce Georges qui n'existe pas. Hein. Et du coup, ça renvoie malheureusement aux tristes sœurs d'Alain René, hein, puisque c'est lui. Quoi. C'est un créateur espiègle, on pourrait dire, ce Georges, on ne le voit jamais. Il est au centre de toutes les conversations, au sein de la troupe théâtrale. Et ce Georges ne pense qu'à vie, finalement, à aimer les femmes, à profiter. Justement, à la fin, il part en, qu'on appelle ça, en plongée sous-marine, en apnée. Donc vraiment s'amuser, s'éclater. Quoi. Et c'est vraiment une ode à la vie. Quoi. Et c'est ce qui est très beau. Quoi.
D'accord. Alors, de ton côté, Hakim, tu as eu moins de chance, apparemment.
Oui. Bien qu'on m'ait quand même prévenu bien avant.
Ça a tiré le mauvais numéro. Quoi.
Non, mais en étant un grand fan du cinéma asiatique, Hong Kong, Japon, Chine, etc., etc., il faut savoir qu'il y a, ces derniers temps, le cinéma asiatique est très, très mal distribué. Il y a quelques artistes reconnus par la critique qui ont la chance d'être distribués correctement chez nous.
Surtout en festival.
Hein. Festival et à Lyon, hein, en particulier. Et là, c'est Kiyoshi Kurosawa qui est un réalisateur qui est adulé par la critique, notamment par Positif et les Cahiers du cinéma. Aucun lien de parenté avec Akira Kurosawa. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler l'année dernière lorsque Shukuzai est sorti. Kiyoshi Kurosawa, c'était un metteur en scène qui a éclos, on va dire, sur le tard. Il a commencé, comme beaucoup de cinéastes japonais, avec les V-vidéo, donc les films directement destinés au marché vidéo et tournés avec la vidéo. Et il a fallu attendre la fin des années 90 pour qu'il commence vraiment à exploser grâce au Festival de Cannes avec des films comme Cairo, Cure, hein, donc vraiment des films très troublants, très durs, très glaçants qui ont profité de l'événement Ring pour exploser sur le...
Qui réinvente des grandes figures aussi mythologiques, le fantôme,
voilà.
Etc.
Et puis oui, c'est vrai que le fantôme est très... l'image du fantôme est très importante au Japon. D'ailleurs, les Japonais sont très croyants là-dessus. Il y a des fantômes de partout, selon eux. Et donc là, Kurosawa, Kiyoshi, hein, de son prénom, à mon avis... suit une trajectoire pas tout à fait identique, mais presque à celle de M. Night Shyamalan. Déjà, le dernier film de lui, d'ailleurs, c'est même pas un film, c'est 5 épisodes qui ont été distribués sous forme de 2 films en France. Hein. Donc Shokuzai, sorti l'été dernier, déjà pêché par des moments assez simplistes pour finalement aboutir à une résolution finale bateau. Et là, Réal, c'est à peu près la même chose. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a perdu sa petite amie qui est dessinatrice de manga. Enfin, qui a fait une tentative de suicide et qui, depuis un an, est dans le coma. Et il décide d'expérimenter d'être cobaye pour une expérimentation médicale toute neuve, qui est de plonger dans l'âme de sa petite amie grâce à un système médical, électronique, enfin, ce que vous voulez, etc. etc. Enfin, une machine qui ressemble plus ou moins à celle qu'utilise Schwarzenegger dans Total Recall, pour entrer dans son âme et l'aider à la ressortir de son coma. Donc déjà, on voit déjà au niveau sur le papier, c'est quand même assez gros. Et le problème, c'est que les médecins lui disent qu'il peut y avoir des effets secondaires à force de faire cette expérimentation. Donc il va lui arriver par moments voir des fantômes. Alors on ne sait pas vraiment s'il est dans la réalité ou s'il est dans l'esprit de sa petite amie. Et on se rend compte lors d'un climax qui arrive au bout de 1h30 que finalement, ce n'est peut-être pas la personne à laquelle on pense qui est dans le coma. J'en dis pas plus.
Enfin, là, t'as tout dit déjà. Là.
Non, mais bon, voilà, il y a bien entendu, il y a tout un autre fond. Il y a,
c'est les autres, quoi.
Non, pas vraiment. Il y a un événement tragique qui est arrivé dans leur enfance, etc., etc. D'où la présence des fantômes qui sont omniprésents dans l'esprit de cette fille et de cet homme. Mais le problème, c'est que Kurosawa a de plus en plus, selon moi, de difficultés à diriger ses acteurs. Et le cinéma japonais se trouve en ce moment dans une période, à l'instar du cinéma coréen d'il y a 5-6 ans, dans une période où les acteurs sont tout aussi mauvais les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune expression faciale.
C'est un peu comme la comédie française à l'heure actuelle, quoi.
Non,
c'est mon tacle.
Du coup, voilà, ils ne sont pas expressifs. pour un sou. Et du coup, il y a une difficulté énorme à s'identifier à eux, à s'intéresser à leur passé, à s'intéresser à leur action, à ce qui, à la problématique qui les entoure hein, et qu'ils doivent affronter. Et du coup, dans ce film, et bien entendu, la mise en scène est ultra statique. Hein, certains y verront une virtuosité dans la composition des cadres, tout ça, pour moi, il n'en est rien. Et là, le risque avec cette recette, c'est de perdre le spectateur, ce qui fut le cas pour moi et pour beaucoup de personnes. Ce qui se trouve qu'au bout d'une heure, tu es en train de commencer à aller ta montre déjà. Et tu sais que le film fait 2 heures. Donc du coup, on enchaîne les flashbacks, les flash-forwards, dans la confusion totale, on ne sait pas où on est exactement. Et au final, on arrive à une conclusion qui est d'une simplicité, mais énorme. Et on se dit, tout ça pour ça, tous ces événements dramatiques pour ce petit grain de poussière. Franchement. Donc Kurosawa, j'ai de plus en plus de mal, j'ai continué à aller voir ses films, mais à l'inverse d'un Claude Lelouch qu'on va évoquer juste après, il n'y a pas de rédemption, il y a une chute totale qui va l'emmener je ne sais où, à moins qu'il rebondisse un jour ou l'autre. En tout cas, Réal, c'est vraiment pas un film que je conseille.
Ok, et ben un petit morceau de musique et on se retrouve après justement pour parler un petit peu du Lelouch. Free.
Confluence, l'entretien.
Bah justement, le dernier Lelouch, moi je suis pas allé le voir, mais ça sent un petit peu les chaussettes noires, le rock des années 60, un peu Johnny Eddy.
Oui et non. Non, surtout non, mais ouais. À part une séquence, on retrouve les bons vieux Johnny et Eddie Mitchell qu'on connaît autrefois, ils chantent devant Rio Bravo.
Comme ça, à vue de nez, excusez-moi, bah... c'est quand même la jeunesse des années 60. Là,
ouais,
quoi.
Mais bon,
oui, mais
c'est
pas,
pas
le thème du film.
Oui,
quoi.
C'est pas le thème du film, oui. Ouais. Alors, gros, un petit mot sur Lelouch, tu vois. Pour faire un petit effet rétro à Miroir avec Kiyoshi Kurosawa, c'est un metteur en scène qui était adulte à ses débuts. Hein. Bon, il a pas eu la Palme d'Or à 26 ans comme Soderbergh, il a eu un peu plus vieux, ouais. Mais il a eu une Palme d'Or très très jeune pour Un homme est une femme.
66.
Il a eu un Oscar. C'est un réalisateur qui, dans les années 80-90, a touché un peu le fond avec des films un peu mauvais, surtout les années 2000, je vous rappelle de And Now, Ladies and Gentlemen avec Jamie
sa trilogie
Iron.
Sa trilogie des Parisiens et, qui n'a jamais vu le jour finalement.
Et oui, le genre humain avec les Parisiens. Il y a un deuxième volet qui a été fait, mais qui le troisième n'a pas été fait parce que c'était un échec total.
Il faut dire qu'il trouve plus de financement,
oui.
Lelouch.
Et il a fait un film en 2009, je crois, ou 2010,
ça, ouais.
Roman de gare. Et je crois qu'en fait, il était en compétition, mais juste avant, il s'est inscrit sous un pseudo. Je ne sais plus pour quelle raison. Mais après, on a su que c'était Lelouch qui l'avait réalisé. Et là, ça commençait à être pas mal. Et là, il revient avec un nouveau film, avec en tête d'affiche Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Donc, les
Sandrine Bonner.
Sandrine Bonner, donc voilà, l'actrice fétiche de Maurice Pialat, avec des nouveaux, des jeunes, Pauline Lefebvre, ancienne Miss Météo sur Canal+.
Irène Jacob, Valérie Kapreski, enfin un gros casting.
Et alors il faut savoir que ce film a été tourné en partie en Haute-Savoie, dans une maison qu'il a lui-même achetée, dans laquelle il a acheté, je ne sais pas s'il l'avait acheté pour le film, en tout cas le film était entièrement tourné là-bas, donc il l'a acheté lui-même, le film, la maison, et si le film a du succès, il saura plus ou moins s'il rentre dans ses... dans son budget ou pas, mais il aimerait bien ensuite utiliser cette maison pour faire des stages de scénario. Et c'est quelqu'un qui a, au fil des années, beaucoup expérimenté. Sa marque de fabrique, c'est les fameux panoramiques avec sa caméra porte à l'épaule. C'est quelqu'un qui écrit, produit, filme, cadre ses films, donc un peu à la Steven Soderbergh.
Et il ne vit que pour le cinéma, Lelouch. Hein. C'est un passionné absolu du cinéma.
Et donc l'histoire, on va la dire, c'est l'histoire de Johnny Hallyday qui s'appelle
Jack Kaminski,
qui, on va dire, est un homme à femme, a eu beaucoup de conquêtes, a beaucoup de filles.
Quatre filles de quatre femmes différentes.
Voilà, mais il s'est beaucoup plus occupé de ses appareils photo que de ses filles. Sa fille aînée a écrit un bouquin sur lui, On t'aime salaud, où grosso modo elle règle ses comptes avec lui. Donc c'est une personne qui a toujours été un peu, on va dire, égoïste, hein, a toujours pensé à lui. Et
parce
le film commence...
C'est un photographe de guerre.
C'est un photographe de guerre.
C'est l'instar de Lelouch, justement, à ses débuts.
Oui, mais c'est un film autobiographique. Oui,
et là, il décide d'acheter une maison en Haute-Savoie, donc comme Lelouch achètera cette maison juste avant le film, pour revivre, etc., etc. Et il essaye tant bien que mal, de renouer avec sa famille, avec ses amis, etc., etc. Enfin, avec ses enfants surtout, et son meilleur ami, qui est au même titre son médecin, interprété par Eddie Mitchell, vient avec sa famille, et Eddie Mitchell, devant le petit chagrin qu'éprouve Johnny par le fait que ses filles refusent de lui reparler, invente un prétexte, à savoir qu'il va bientôt mourir, pour les inciter à finalement les rejoindre et passer un week-end dans sa belle maison, ce petit chalet en Haute-Savoie.
Oui, et déjà, ce qu'il faut dire, c'est un film dédié entièrement à Johnny Hallyday, quand même.
Oui.
Moi, Johnny, j'ai vu quand même pas mal de ses films en tant qu'acteur, et tout le monde le sait très bien que Johnny n'est pas un très grand acteur.
Ah, je dirais, franchement, je dirais pas ça.
Mais
il
y a un mais. Johnny a quand même été bien dirigé dans quelques bons films, comme l'excellent L'Homme du Train, de Patrice Lecomte.
Ah, ça, je suis pas tout à fait d'accord.
Je parle de Johnny en tant que dirigé, acteur dirigé, pas en tant que le film.
Mais Johnny n'était pas le choix premier de Lelouch, par contre. Hein. C'est ce que j'ai entendu quand même sur ce film.
Ouais. Et force est de constater que Lelouch arrive à le diriger de manière... Moi, je trouve que Johnny est vraiment superbe dedans. Quoi. On dirait qu'il ne joue pas, il est vraiment Johnny. Oui,
mais il fait partie de ces acteurs, à la star des Lino Ventura, des Gabin, des Delon, qui sont... de vrais acteurs. Ce ne sont pas des comédiens. Je reviens à la citation de Delon.
Oui.
Les comédiens sont ceux qui prennent des cours pour devenir acteur, alors que les acteurs sont des acteurs nés d'une aventure, il n'a jamais pris de cours, il était naturel devant une caméra et il était un très bon acteur. Et je pense que Johnny, c'est pareil, comme Eddie Mitchell, c'est pas un acteur.
Oui,
et
mais Eddie Mitchell, ils ont après, c'est personnel.
Ils ont une gueule, ils savent
mais
bien parler.
Mais Eddie Mitchell, c'est quand même mieux joué à la base que Johnny Hallyday.
Il a une gueule, je pense. Il aurait pu jouer dans un Melville.
Et force est de constater. Il l'a joué plus ou moins dans un Melville.
Oui.
C'est le vengeance de Johnny To.
J'ai vu encore. Autant je suis fan de
Johnny. Justement, je voulais le dire, c'est l'un des meilleurs rôles de Johnny. Il a tout compris, Johnny To, et je trouve que Lelouch fait un peu la même chose que Johnny To dans Salon Thème. Il cadre son visage comme un paysage. Mmh. Et donc, Johnny, tu le vois un peu comme Stallone, un paysage certes ravagé, on pourrait dire, mais qui raconte tellement de choses. T'as pas besoin que Johnny te balance 15 lignes de texte. Mmh. C'est marqué sur sa tronche que le mec, il a du vécu, qu'il a vu beaucoup de pays, qu'il a, il a connu la guerre, etc. Et donc, de mettre Johnny dans ce rôle-là, c'est déjà très intelligent. Mmh. Et après, il arrive très, très bien à le diriger, tout comme Eddie Mitchell. L'alchimie, l'amitié, elle est tout de suite là, on la ressent tout de suite. Voilà, la séquence où il chante Rio Bravo, moi, ça m'a forcément fait sourire, parce que j'adore Rio Bravo, j'adore Eddie Mitchell, et les voir ensemble.
La dernière séance, quelle magnifique émission.
Et c'est un plaisir, déjà, je pense, en tant que spectateur, en tant que jeune cinéphile, de voir ça, déjà. Et de voir ces deux monstres, déjà, ensemble, réunis, c'est déjà un plaisir. Mais le film... moi j'aime beaucoup Lelouch. Lelouch a fait beaucoup de merde, certes, mais contrairement à beaucoup de critiques, je trouve ça très injuste qu'il le démonte matin, midi et soir de manière un peu gratuite. Moi je trouve que Lelouch a fait des très grands films. Un homme et une femme, Mitien, un enfant gâté, que ma mère m'a fait découvrir étant enfant, donc c'est un film que j'aime beaucoup. Toutes ses collaborations avec Lino Ventura, comme L'aventure c'est l'aventure, etc., c'est des grands films.
Il a fait Yves Montand et Annie Girardot.
Voilà, ou Le Voyou que tu avais vu au Festival Lumière. Merci Simca.
Et, merci Tarantino.
Et voilà, donc moi je trouve que Lelouch dans le film tente des trucs, voilà, les paysages sont magnifiques, même si on sent, voilà, il y a plein de défauts, il y a des faux raccords, parce qu'on sent, on sent qu'il tente beaucoup, on sent qu'il a tenté des trucs au montage, comme j'ai rien révélé, mais à la fin il y a des morceaux du passé qui viennent, etc.
Mais il s'est tourné sur plusieurs saisons, hein,
l'hiver,
au printemps, l'été.
Il tente beaucoup Lelouch, faut le dire, et donc il expérimente, donc c'est pas toujours réussi, mais c'est pas grave parce que je trouve que le récit est autobiographique, hein. Lelouch a eu 7 enfants de 5 femmes différentes, lui-même en tant que passionné de cinéma n'a jamais bien transmis sa vie à ses enfants. Il ne les a jamais bien connus et il le regrette aujourd'hui. Hein, on le sent très, très bien. Il le dit un peu en interview, il commence à penser à la mort. Hein, il a 76 ans quand même.
Il a la pêche. Hein, il n'a pas non plus la santé de Johnny.
Il commence à y penser. En tout cas, il en parle et il dit que maintenant, la vie, il faut la savourer. Mmh. Et on retrouve de ça, je trouve, dans Salon Thème. C'est un beau film. Mmh. C'est un feel-good movie quelque part. Hein, et moi, je trouve que c'est tant mieux. Bravo, moi, je dis voilà.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un film qui rafraîchit l'esprit. De très beaux plans de la Haute-Savoie. D'ailleurs,
des belles musiques aussi.
D'ailleurs, le paysage est un personnage à part entière dans le film. Et puis bon, il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est diriger les acteurs. Ouais. Alors il pose sa caméra en filmant Johnny, Eddie Mitchell, la famille de Johnny, Sandrine Bonner également, en train de discuter, en train de parler du passé, des problèmes de famille, de la mort, etc., etc.
On rigole,
avec du bon vin, etc., voilà. etc. Voilà,
c'est la vie. C'est la vie.
Le problème, il y a juste un petit bémol. Alors on va faire attention à ne pas spoiler. Quelque chose
attention, dans attention film, je veille.
Mais à la fin, il y a un quart d'heure de polar. C'est-à-dire qu'à la fin, on tombe dans un polar. Et c'est je trouve que c'est pas assez judicieusement traité. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il y a un personnage qui arrive, hein, soi-disant, il y a un cambriolage de casino. On sait
n'en
pas parle, ce que ça
n'en,
fout
n'en parle pas plus. Voilà. Voilà.
Et je trouve que c'est très vite expédié. Alors que ça aurait pu être un peu mieux mixé avec toute la partie homme-famille, comme tu l'as dit, et ça aurait pu donner un très bon polar, je trouve, à la Agatha Christie, mine de rien.
Mais je pense qu'il veut un peu trop mixer trop de trucs. C'est un peu
là, c'est même pas mixé, c'est on a une heure et demie de home-movie, et à la fin, je mets mon quart d'heure de polar, où j'annonce un truc, et je résous
le truc. Il le prépare aussi un peu en amont, mais on s'en fout, quoi.
Voilà, et moi, je trouve ça un peu désolant. Je trouve que ça gâche un petit peu l'agréable feeling, l'agréable sensation qu'on a en regardant ce film.
Mais je pense qu'au niveau scénaristique, il a bien d'en passer par là. J'en parlerai pas plus, mais il a bien d'en passer par là.
Ou là, par un moment, tu vois, ponctuer ces séquences de famille, de retrouvailles par des petits moments clés où on voit certaines personnes arriver qui nous permettent d'annoncer ce qui va arriver à la fin, tu vois. Et je trouve que ça, c'était scénaristiquement parlant, c'était pas bien mené. le petit bémol que
oui, oui.
Mais voilà, c'est un vrai film d'acteur. Et Johnny, voilà, il est filmé comme un paysage, il est filmé comme un western avec ses yeux retravaillés qui ont été retouchés, etc., etc.
Ça pourrait être un Clint Eastwood français, je veux dire, dans il a une statue un peu sèche, une vraie gueule, une vraie prestance, un vrai charisme. C'est dommage qu'on le... Voilà, on ne sait pas le mettre en valeur. Et là, Lelouch, enfin, c'est mettre Johnny en valeur comme Johnnyto savait le faire.
Il ne faut pas oublier qu'il a joué quand même dans un Godard. Hein.
Oui, mais détective. Bon, il joue mal dedans.
Même je ne l'ai pas vu, donc du coup.
Malheureux. Non, mais pour que Godard...
De ce que je pense de Godard, de toute façon. Oui, mais pour que Godard, tout ce que tu penses, pour qu'un réalisateur comme Godard, dans les années 80, propose à Johnny de jouer dans son film...
C'était Maurice Pialat qui a eu l'idée. Hein. C'est Godard qui a volé son film. Et d'accord. C'est pas un hasard si Pialat a fait après Police. Et c'est pas un hasard si on retrouve Sandrine Bonnaire aussi dans ce film-là. Et Sandrine Bonnaire, on sent que Lelouch, il improvise constamment, on le sait. Le scénario, il le prend, il le balance à la poubelle 15 minutes avant de tourner. Il écrit trois phrases, donc d'où les célèbres phrases lelouchiennes, voilà, comme l'amitié, etc. Le chien de Pagnol, tous ces trucs qu'on voit dans le film. Et du coup, ça donne une fraîcheur et on sent que Bonnaire, voilà, s'épanouit aussi vachement là-dedans, quoi. Alors que, et Johnny aussi, bizarrement, parce que Johnny, comme tu l'as dit, c'est pas un comédien, voilà, ce n'est pas un mec qui a des tics ou des règles. Et on sent qu'il arrive très, très bien à s'émanciper et à être lui-même, quoi. Il ne se force pas, Johnny, dans ce film. Quoi. Et voilà, je le dis, Johnny, c'est être très bon acteur quand il est bien dirigé, quoi.
Et Lelouch, c'est être un bon directeur d'acteur.
Ouais, ça, ouais, je le pense aussi. Ça.
Et il filme très bien.
J'aime bien Lelouch, moi, de toute façon. Alors.
Voilà, ce qu'on voulait dire sur Lelouch, hein, qui, je pense, va marcher.
Oui, c'est un...
Je mise une petite pièce. Je pense que ça va être un petit succès.
Ouais. À voir, alors, le Lelouch.
Oui.
Eh ben, on écoute une nouvelle musique et on se retrouve ensuite pour parler du réalisateur Alexander Payne, alors.
Ouais.
Fears and the way they did run, you sure must be strong.
Dernière partie consacrée aujourd'hui donc au réalisateur américain Alexander Payne. Alors Raphaël, tu vas nous faire un petit peu sa bio peut-être.
Oui, disons juste en préambule que c'est par rapport à la sortie aujourd'hui même du très bon Nebraska que Hakim et moi avons eu la chance de voir il y a quasiment un an déjà au Festival de Cannes.
Et, dis-moi.
C'est un road movie en noir et blanc avec Bruce Dern sur les relations père-fils. Qui est très très beau, très très émouvant comme d'habitude chez Alexander Payne, et en même temps très américain.
Et qui est diffusé dans une bonne, un bon, enfin la plupart des salles lyonnaises, hein, les UGC, le Comédia, le Pâté. Donc étonnamment, ça reste, enfin il est distribué comme un film à tout public.
C'est un auteur porteur, Alexander Payne, un peu comme les Coen ou Tarantino. Hein, c'est l'un des grands auteurs américains quand même qui est quand même assez connu et récompensé à travers les grands festivals. Hein, il était encore une fois à Cannes justement avec Nebraska ou Descendant aussi eu beaucoup de récompenses et de nominations aux Oscars, par exemple. Donc, c'est en plus avec beaucoup de stars qui jouent dans ces films. Voilà. Alors, Alexander Payne, précisons un peu qui est le personnage. C'est un réalisateur presque grec. Il est d'origine grecque. Son vrai nom, c'est Alexandros Papadopoulos. J'ai du mal à le dire, mais c'est le vrai nom d'Alexander Payne.
C'est le nom d'un joueur de foot, un défenseur grec super...
Il aurait pu être joué au football, Alexander Payne. Et donc, il est du Nebraska. Il est né à Omaha, donc la capitale du Nebraska, et donc il a souvent tourné là-bas, ce qui explique aussi son dernier film avec Bruce Dern. C'est un homme très cultivé. Il a été diplômé d'histoire et de littérature espagnole. Et après, il a intégré la fameuse UCLA, la fameuse université californienne où Paul Schrader, Coppola, beaucoup de Rob Reiner, etc., de très grands metteurs en scène ont émergé. Hein, et il en a sorti avec une maîtrise de cinéma. Et il a présenté son premier court-métrage là-bas en 91 qui était La Passion de Martin, donc The Passion of Martin, qui a été récompensé au festival de Sundance. Donc déjà dès le tout début de sa carrière, avec ce court-métrage étudiant, il est déjà repéré sur la scène des auteurs.
Festival du cinéma indépendant.
Voilà, c'est exactement le bon terme, indépendant, c'est vraiment un auteur
91 tu dis ?
Ouais. Il n'est pas si vieux que ça.
C'est l'époque de Reservoir Dogs, quand
exactement. Ouais, bah c'est la même génération, exactement. Mmh. Et il va surtout en fait, se faire connaître avec un premier long métrage, c'est le seul que je n'ai pas vu de sa filmographie, hein, qui s'appelle Citizen Ruth, qui est un vrai film du coup politique, hein, c'est aussi une de ses marques de fabrique, hein, avec Laura Dern, donc la fille de Bruce Dern. Le lien est tout de suite là avec son dernier film, hein, qui est un film sur une toxico qui a quatre enfants, et un juge en fait, des familles va décider de leur tirer les enfants, et à ce moment précis, elle tombe enceinte. Et le juge va la forcer à avorter. Et à partir de là, il y a une guerre qui va émerger purement américaine entre les pro-vie et les pro-choix. Donc c'est vraiment un film, déjà pour le coup, très ancré dans la culture américaine, assez politique, on pourrait dire, mais toujours chez lui avec une certaine dose d'humour. Donc ça, c'est vraiment le premier film qui le fait émerger. Par la suite, il fait un film que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle Élection. C'est le titre original, et en français, c'est L'Arriviste, il me semble. Un teen movie.
Ah, c'est pas le film de Jonito ? Élection.
Ah non, rien à voir. C'est un teen movie qui est assez, vraiment très très drôle, assez original, surtout par rapport au teen movie, puisqu'en fait, le film retrace une satire politique, c'est-à-dire que c'est Reese Witherspoon, qui est la première du lycée, qui veut se faire connaître, se faire élire au poste de délégué, et un professeur, Matthew Broderick, je vais y arriver, qui est l'un des fameux acteurs de John Hughes du teen movie, qui est un professeur, va tout faire en fait pour la faire dégager parce qu'elle a couché avec son meilleur ami, et qui a fait virer en fait son meilleur ami du lycée. Et c'est un film, mais d'une méchanceté qui est vraiment, vraiment assez jubilatoire et qui critique très bien le côté politique américain, la réussite à l'américaine, qui décortique le mythe américain, le rêve américain dans sa splendeur, mais dans le côté teen movie. Donc c'est vraiment super original, c'est super barré et c'est très très drôle. Et par la suite, il va faire, c'est assez étrange, il va arrêter plus ou moins sa carrière de metteur en scène, il va faire le scénario de Jurassic Park 3 quand même. Qui a rien à voir avec le reste de sa filmographie. On se demande pourquoi il a fait ça, vraiment pour l'argent pour le coup. Et c'est par la suite qu'il va vraiment revenir sur le côté indépendant avec Monsieur Schmidt. Je sais pas si tu l'as vu.
Ah, non, moi je l'ai pas vu moi.
2003 avec ouais. Jack Nicholson.
Ouais, 2002 avec Jack Nicholson et oui. Kathy Bates. Donc vraiment là, encore une fois, on est vraiment dans l'une de ces thématiques, les acteurs du nouvel Hollywood. Hein, donc Nicholson, Kathy Bates, etc. L'histoire d'un courtier qui part à la retraite et qui va perdre un peu tous ses repères. Sa femme va mourir et il décide de prendre sa caravane, de faire un road trip comme ça, un road movie. Hein. Et il va partir à un peu comme Johnny finalement dans le loup, retrouver sa fille avec qui il était brouillé, etc. Donc là, on retrouve encore une autre thématique qui est le road movie, hein, qui est le genre purement du New Hollywood et qui est un genre vraiment purement américain pour le coup quoi. Et il va continuer sur ce chemin-là avec Sideways qui est un drôle de film encore une fois
qui avait eu un gros succès ouais, public et critique surtout hein, je me souviens
ouais c'est un super film
qui se passe à Hawaï c'est ça hein.
Non c'est avant celui-là c'est
sur le vin
ouais exactement c'est sur la route du vin en Californie c'est deux amis qui partent sur la route du vin parce que l'un des amis va se marier et ils vont rencontrer plein de femmes ils vont déguster la vie etc
ah oui et du coup ça fait un peu changer le
donc encore une fois un vrai film de genre un buddy movie croisé avec du road movie qui est vraiment en train de fabriquer le coup pour le road movie hein, et qui va encore une fois comme t'as dit Hakim le remettre sur le devant de la scène, il va encore avoir beaucoup de prix grâce à ça. Les acteurs aussi, hein, Paul Giamatti, des très grands acteurs viennent chez Alexander Payne. Et c'est après qu'il va devenir l'un des réguliers du Festival de Cannes. Il va être membre du jury en 2012 pour Nanni Moretti. Il
a aussi présidé certains regards. Alors celui avec Clooney, c'est lequel on n'en a pas parlé, celui-là ?
The Descendant. Qu'on avait chroniqué du coup il y a un an et demi je crois. Mmh. Je sais pas si tu l'avais vu avec Kim à l'époque.
Si je l'avais vu avec George Clooney ouais. Qui revient sur son passé à Hawaï.
Qui était pas mal celui-là. Ouais. Moi je me rappelle il y avait toute une métaphore un peu que j'avais bien aimé entre justement l'île un peu d'Hawaï, la manière dont les parties géographiques sont éclatées et la famille du coup ouais. Parce que là on était dans un père qui revient et qui voilà sa femme est dans le coma et il essaye du coup de sauver un petit peu. Ce qui reste de la famille, quoi.
De tout gérer en même temps, ouais.
C'est vrai que c'était assez sympa comme film.
Et qui met en valeur George Clooney, encore une fois. C'est vraiment un metteur en scène d'acteur, quoi. Mmh. Et justement, c'est pas un hasard si Bruce Dern est parti avec le point d'interprétation masculine à Cannes au dernier festival, quoi.
Après, moi, sur ce film, parce que c'est vrai que j'ai pas vu les autres et tout, le seul bémol que je mettrais un petit peu, si je me rappelle bien, c'est qu'il y avait quand même un petit côté assez moraliste. Alors, je sais pas si comment c'était sur ces autres films, mais c'est qu'il y avait un petit côté où il était quand même bien sur le truc, l'adultère, c'est mauvais, il faut rester bien comme il faut avec ses enfants, etc. Et tout ira bien, quoi. Il y avait un petit peu ce côté-là, quoi.
Mais dans tous ces films, l'adultère, c'est effectivement l'un de ses thèmes principaux. Justement, c'est ce qui va causer la perte du professeur dans Élection, Matthew Broderick, je vais y arriver. J'ai du mal avec lui. Et pour le coup, c'est vraiment le cinéaste américain par excellence, quoi. Je vous l'ai dit, hein, l'hommage au nouvel Hollywood, l'hommage au road movie. On peut dire qu'il y a des parenthèses à l'HB par exemple, hein, qui était à la fois un cinéaste politique, mais un cinéaste à la fois dans la comédie un petit peu et dans la tendresse. Parce que c'est toujours des films très très beaux. Hein. Nebraska, tu peux le constater, Hakim. Très politique aussi, bizarrement quand même. Voilà, Élection, je vous l'ai dit, c'est vraiment le rêve américain qui est attaqué. Hein. Et beaucoup dans l'histoire aussi, dans la certaine tradition, c'est ce qu'on voit dans Nebraska, les paysages américains évidemment, qui sont vraiment l'une de ces thématiques aussi.
Mais ce qui est drôle, c'est que dans Nebraska, paradoxalement, le film est en noir et blanc. Alors oui. Qu'on dit que c'est un film qui évoque le nouvel Hollywood, le cinéma des 70, etc. etc. Alors que
rappelle-toi, Manhattan était en noir et blanc.
Oui,
79.
Et oui, mais ça fait vraiment partie du nouvel Hollywood, Manhattan.
Mais si, L'As d'Étal aussi, La dernière corvée.
Oui, et le film de Bogdanovich.
Oui, La dernière séance.
La dernière séance,
oui,
effectivement.
Non, mais c'est
et du coup, moi, je penserais plus au film de La dernière séance.
Oui, oui c'est clair.
Mais les grands films, les grands run movies du nouvel Hollywood, Easy Rider et plein d'autres films, je pense à Duel ou d'autres films, étaient en couleur.
Donc, et c'est des run movies, encore une fois.
Oui, voilà, voilà. Ben, couleur. Alors, je suis étonné, il faudrait que je lise justement l'interview de Alexander Payne dans Positive. Je ne sais pas si on le questionne sur son choix du noir et blanc, mais j'aimerais bien justement savoir pourquoi il a opté pour ce choix artistique.
En fait, c'est justement pour un souci de réalisme, entre guillemets, qui est vraiment l'une de ses, voilà, de ses lobbies, on pourrait dire. Par rapport, tu sais, aux néons de bar qu'on voit dans le film, etc., c'est moins agressif, on est beaucoup plus du côté intimiste pour le coup avec le noir et blanc, en fait, tout simplement.
D'accord.
C'est vraiment une volonté esthétique et qui est assez marquée, quoi.
Je pense que c'était pour vieillir, Bruce Dern.
Et puis on retrouve le côté, encore une fois, l'épouvantail aussi de Chesbert, tu vois, le côté body movie, le côté sur la route, le côté on est perdu, etc., qu'on retrouve vraiment dans le cinéma des 70s, quoi. Et il est un peu à la croisée des genres, finalement, Alexander Payne. Il est un peu inclassable, quoi. À la fois un peu dans le passé, mais aussi très ancré dans le présent. The Descendants, c'est un peu ça, sur l'adultère, etc. Comment gérer aussi des ados d'aujourd'hui, des ados qui ont 15 ans aujourd'hui en 2012. Donc, il y a tout ça chez Alexander Payne.
D'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on aura de beau au programme pour la semaine prochaine?
Alors, moi, la semaine prochaine, je vais vous faire la crème de la crème. Le nouveau film de Kim Chapiron.
D'accord. Oui, que j'avais envie de voir aussi.
Voilà, parce que le Chapiron, on ne sait jamais si c'est bon ou si c'est mauvais, puisque Shaitan, c'était de la merde, mais Dog Pond, c'était vachement bien. Donc à voir. Donc voilà.
Moi, je ne sais pas encore ce que
je vais voir. Et il y a Noé qui sort, le dernier Aronofsky, la semaine prochaine.
Oui. Bah, je pense qu'on va faire ça en duel, parce que moi, je ne suis pas du tout un grand fan d'Aronofsky, sauf Requiem for Dream, mais ça remonte. Hein. Et athée comme je suis, je ne sais pas si l'histoire de l'Arche de Noé va me passionner, mais j'irai quand même le voir.
Apparemment, c'est un gros blockbuster.
Et on en fera notre duel, notre deuxième partie.
Ok, et puis bien sûr, il y a aussi les Quais du Polar qui démarrent ce week-end et que nous allons couvrir de diverses manières avec Brume. Et du coup, on va voir un petit peu comment on va mettre aussi en place. Mais en tout cas, chers auditeurs, vous allez entendre parler du polar sous toutes ses formes.
Et on peut annoncer que le prochain thème de Radio D, ça sera justement la littérature polar au cinéma et le cinéma dans la littérature polar, etc. Vice-versa.
Le polar en général.
Quoi. Avec un gros dossier sur Elroy qui est la grande vedette de cette 10e édition.
Eh ben, on se retrouve très bientôt, en tout cas, pour parler de cinéma sur Brume.